Les rideaux se lèvent. L'âme du poète va être jugée. Les yeux du public sont deux petits génies qui cherchent les fleurs spirituelles pour les offrir à ses pensées. Tout poème est un jardin. Heureux celui qui sait les cultiver et bienheureux celui qui coupe ses roses pour en nourrir son âme. Les lampes de l'imagination s'allument en recevant les baumes parfumés de l'émotion. Les rideaux se lèvent.
Qu'est-ce qui est pas cher, qui est solide, qui prend pas l'eau, qui est facile à cirer et qu'on trouve partout?
Un édredon.
Non, pas un édredon.
Des chaudières.
Non, petite tête, pas des chaudières, des chaussures.
Bonjour, et oui, des chaussures. Car aujourd'hui, nous nous retrouvons autour du thème de l'itinérance, la déambulation, la marche, pour explorer monde poétique pendant cette troisième émission du Théâtre des mots, l'émotion dans la poésie. Nous allons écouter un morceau de déambulation qui est fabriqué avec des instruments bâchés, qui viennent tout droit des années 50, 60, 70, instruments contemporains en métal. Et ensuite, nous aurons un premier texte qui sera extrait d'un recueil qui s'appelle La Vallée des Papillons, d'une poète danoise qui s'appelle Inger Christiansen. Je pourrais vous parler de Inger Christiansen pendant très longtemps, parce que j'aime beaucoup cette poète, qu'elle a fait des choses très très intéressantes et profondes. Mais nous sommes ici pour jouer et explorer les mots, donc je ne vais pas trop m'attarder. Je récapitule. Les instruments bâchés avec le morceau qui s'appelle Carriole. Et ensuite, trois petits extraits de La Vallée des Papillons de Inger Christiansen. À tout de suite.
Thank you.
les papillons s'élèvent vers leur estive planétaire. Ils montrent leurs pigments chauds, ils montent leur corps. Un essaim de particules élémentaires sort de terre. Du cinabre, de l'ocre, du phosphore jaune, de l'or. Est-ce que ces battements d'ailes ne sont qu'une errance de particules légères, une espèce de perception? Est-ce leur rêver de l'été de mon enfance, brisé comme un éclair, perdu en circonvolution? Non, c'est la clarté des anges qui peut se peindre elle-même comme mnémosyne sous son ombrage, comme du cuivre, un sphinx, une queue de mésange. Je les vois au fil de mes pensées s'éteindre comme des plumes légères dans leur édredon emballé, au souffle chaud de midi, abragigno la vallée. Au souffle chaud de midi, abragigno la vallée, quand la mémoire s'émiette,
et toutes les choses,
en fragments éparpillés,
de plantes écloses, se transforment de l'inodorant au parfumé. Alors je reviens en arrière, je vais de feuilles en feuilles, les envoie dans les filets des prairies de mon enfance.
Ce plus divin des pièges naturels accueille sa capture qui jadis s'envolait comme jour.
Ici, dans son cocon, l'amiral, jadis verte chenille printanière morphale,
se transforme en ce que nous appelons pensée.
Pour que l'été, d'autres papillons dansent en révélant les colères pourpres de l'existence.
Par-dessus les cavernes profondes, acides et asséchées. Des papillons bleus pensent, s'agitent sous le vent. Je pense que je marche au jardin d'Éden, mais bientôt le paradis coule vers le néant, et même les mots, qui jadis pouvaient être épelés,
commencent à se dissoudre en trompe-l'œil de gendarmes, de cuivre rare d'Arlequin.
Duquel les mots magiques des nuits blanches de Silice transforment la lumière du jour en clair de lune. Ici, les groseilles maquereaux et les buissons d'épines noires poussent.
Quels que soient les mots que tu manges, ils le font.
De ta vie, un papillon facile à rappeler.
Peut-être je vais me chrysalider moi-même et contempler les grelots blancs sur la main d'Arlequin.
Inger Christensen, La vallée des papillons. Robert Desnos, À la faveur de la nuit.
À la faveur de la nuit. Se glisser dans ton ombre à la faveur de la nuit. Suivre tes pas, ton ombre à la fenêtre. Cette ombre à la fenêtre, c'est toi. Ce n'est pas une autre, c'est toi. N'ouvre pas cette fenêtre derrière les rideaux de laquelle tu bouges. Ferme les yeux. Je voudrais les fermer avec mes lèvres. Mais la fenêtre s'ouvre et le vent qui balance bizarrement la flamme et le drapeau entoure ma fuite de son manteau. La fenêtre s'ouvre. Ce n'est pas toi. Je le savais bien.
Nous allons maintenant entendre un texte, plusieurs textes, de Don Patterson, qui est un poète écossais, qui a adapté des poèmes du poète espagnol Antonio Machado. Ce qui va être rigolo, c'est qu'aujourd'hui, nous allons entendre la version anglaise et la traduction française. Mais comme tout ceci est tiré de l'espagnol, j'espère bien que dans une de nos prochaines émissions, nous reviendrons à l'édition originale Je pourrais aussi vous lire un texte sur la traduction qu'a écrit Don Patterson, mais ça serait un petit peu long. Donc, je vous explique juste que ces quatre textes de Don Patterson vont être au milieu d'un texte de Jean Sénac, qui est un poète d'origine algérien, des années 50. Et donc, nous reparlerons de Jean Sénac tout à l'heure. Je vous laisse en compagnie de Don Patterson.
The visit. One night, last summer, I was lying in bed, unable to sleep, the balcony and front door thrown open to the hot night, when death walked into the house. He swept up to her bedside without so much as a glance in my direction and set about snapping something very fine between his long, delicate fingers. "What are you doing?" I hissed, but soundlessly, at the one rails. He slid backwards through the room again. My little one frowned, but only in a home dream, and I lay wondering what the threads were that he'd broken so carefully. And as I watched her breast rise and fall, my heart grew strangely heavy, then heavy again with the knowledge.
La visite. Une nuit l'été dernier, je restais couché au lit, incapable de dormir. Le balcon et la porte-fenêtre grande ouverte sur la nuit chaude, quand la mort prit pied dans la maison. Elle se glissa au flanc de son lit, sans le moindre coup d'œil dans ma direction, puis elle se mit à faire claquer quelque chose de très fin entre ses longs doigts délicats. « Qu'es-tu en train de faire ?» Je mordorai. Mais silencieusement, comme sur des rails, elle se glissa en arrière de la pièce à nouveau. Ma petite frémit, mais seulement dans son propre rêve. Et je restai couché, me demandant quels étaient les fils qu'il avait fait rompre avec tant d'attention. Et tandis que je regardais sa poitrine s'élever et retomber, mon cœur s'alourdissait étrangement et s'alourdissait encore par la connaissance.
Poème. Je ne veux ni la gloire, pas plus que dans la mémoire des hommes, mes chants survivent, mais pourtant. Ces mondes subtils, ces perles de nacre légère, mes propres bulles de savon, j'aime simplement comment elles montent, toutes ensoleillées et écarlates, comment elles planent, s'érasent, s'émondent sous le ciel bleu, frémissent, puis soudain éclatent.
Parole avec Walt Whitman, de Jean Sénac. Walt Whitman, à l'heure où autour de nous la liberté s'effondre comme un hôtel abandonné et que de toutes parts les maquignons gagnent les hauteurs à l'affût de notre dernière parole, rends-nous le souffle et cet ardent mal de contact dont nos yeux ont gardé l'orage. Walt Whitman, les meubles sont vendus, les camarades se tordent de peur, essayant de gagner à peine une brindille de jour. Un long temps passera avant que notre cœur s'habitue aux rumeurs du sable. Et pourtant, cette salive qui nous vient, sèche et salée, c'est déjà toute la mer. Un oursin qui nous pique déchaînera comme une horloge le réveil. Et nous crierons « Soleil !» là où le bleu nous envahit. Ô jour pesant en cette attente, nuit des pauvres répits. Oh, ces enfants qui jouent à la balle avec un scarabée volant. cette souple oraison de musc dans les herbes, ces abricots tachés non de cambouis mais de vases odorantes, enfants noirs et dorés comme après un tournoi de sèche, jour de mon cœur, jour lointain et si proche. Une seconde ici a des marges de siècle, et ces plongées nous donnent un vertige d'hirondelle. Ô lumière, ô mer, ô dans tout cet espace le désir retenu et les hautes murailles. Je chante avec toi, Walt Whitman, le compagnon que tu attendais est venu, et dans ta grande barbe déjà pousse une inquiétude de seigle. Je n'attendais pas cette tristesse ni le consentement à la phrase des autres. Je n'attendais pas cette nostalgie de lune. Ce que j'attendais, camarade, c'est l'athlète au salut vital et la parole nue, auréolée de sa liqueur. Ce que j'attendais, lèvres à lèvres, c'est le soleil dans un mot cru. Ô Walt Whitman, et tu repousses mes chardons. Il faut donc reprendre la route, marcher, marcher vers le cœur de l'été, là encore marcher, et marcher vers le centre, et reprendre la route, et marcher, et marcher.
Traveler, your footprints are the only path, the only track. Wayfarer, there is no way. There is no map or northern star, just a blank page and a starless dark. And should you turn round to admire the distance that you've made today, the road will billow into dust. No way on and no way back. There is no way, my comrade. Trust your own quick step, the end's delay, the vanished trail of your own wake. Wayfarer, sea walker, Christ.
Camarade lointain, souvenez-vous de ce que nous avons souffert, de quelle nuit nous avons dû subir la froide vanité. Avant que votre nom n'éclate, homme libre, homme bon. Notre audace ne fut que tâtonnement et colère, et l'amère saveur de cette vérité qui nous tenait debout. Sur nous s'abattait comme des fruits de vent la compassion de nos amis et d'innommables citadelles s'édifiaient sur notre cœur. Nous allions vers un peu d'eau, vers un peu de lumière. Misère, avec quelle arrogance! Tenir un tronçon de la route et devoir observer le désert alentour. Puis venait la solitude, comme un lit jamais ouvert, où s'abattaient les griffes des rapaces sur nos bras. Nous imaginions votre baiser nouveau, ce vin qui ne ment pas, et dont l'ivresse est bénéfique. Puis il fallait fermer le jour, et par une lucarne invoquer votre venue, afin que naissent les enfants, et que le blé ne pourrisse pas sur l'air. Sans l'espérance de votre geste, qu'aurions-nous fait, camarades si loin, sinon gémir et construire de larmes, une maison inachevée.
Sigh. Again my heart creaks on its hinge, and with a long sigh opens on the arcade of my short history, where the orange and acacia are flowering in the courtyard and the fountain sings, then speak its love song to no one. Soupir. Encore mon cœur grince de ses gonds, et avec un long soupir qui s'ouvre sur la galerie de ma courte histoire, où l'orange et l'acacia fleurissent dans la cour, et la fontaine chante, puis parle de sa propre romance à l'absence.
Et Walt Whitman, encore une fois, derrière les remparts de l'Espagne, secouant comme une cendre ses cuisses de colombe, entra dans la mer jusqu'aux épaules, et il nagea. Et les jeunes gens le regardèrent, oubliant pour une seconde les Françaises en bikini. Et je vis plus loin comme une nuée de navires, et droit, exténué entre les cuivres délirants, trois poètes. Federico le premier, qui tenait à la main une rose et sur son cœur, comme un raisonnement logique, une ombre de balcon. Et Miguel, qui serrait encore dans son poing des feuilles de figuier pour son ami Ramon Faje. Et Blas, simple comme un tronçon de bois que la mer a rendu. Trois poètes, venus des quartiers populaires, des chants, chacun te célébrant, Walt Whitman, tandis qu'à large brasse ton corps harmonieux écrivait sa cantate. À l'Espagne, à la liberté, à notre nuit, homme fragile. Et j'ai pris un galet, et longtemps je l'ai promené sur mes lèvres avant de dire le premier mot.
seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away. Cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Ray Charles, Hit the Road. Vous écoutez le théâtre des mots, l'émotion dans la poésie. Nous sommes au cœur de notre troisième émission qui a pour terme l'itinérance, la déambulation, la marche. Nous allons poursuivre notre périple avec Milan Kundera qui va nous lire un texte qu'il a écrit lui-même, un extrait d'un de ses derniers essais, qui s'appelle Le brouillard. Et on est à mi-chemin entre l'itinérance et la déambulation, mais par rapport au cheminement humain, par rapport à l'histoire, avec un grand H. Et Milan Kundera, par ailleurs, indépendamment de ce texte, je vous conseille de lire La valse aux adieux, qui est un roman vraiment très très rigolo et qui n'est pas du tout dans certaines réputations qu'on peut lui donner, qui est lié à son roman très connu, L'insoutenable légèreté de l'être. C'est pas du tout dur à lire et c'est vraiment un roman qui avance. Donc Milan Kundera, ici, un extrait de son dernier essai qui s'appelle Le brouillard.
Tolstoï polémique contre l'idée que l'histoire est faite par la volonté et par la raison des grands personnages. Selon lui, l'histoire s'est faite elle-même, obéissant à ses propres lois, mais qui reste obscure à l'homme. Par cette conception de l'histoire, Tolstoï dessine l'espace métaphysique dans lequel les personnages de la guerre et de la paix se meuvent. Ne connaissant ni le sens de l'histoire, ni sa course future, ne connaissant même pas le sens objectif de leurs propres actes, ils s'avancent dans leur vie comme on avance dans le brouillard. Je dis brouillard, non pas obscurité. Dans l'obscurité, on ne voit rien. On est aveugle, on est à la merci, on n'est pas libre. Dans le brouillard, on est libre. Mais c'est la liberté de celui qui est dans le brouillard. Il voit à 50 mètres devant lui, il peut nettement distinguer les traits de son interlocuteur, il peut se délecter de la beauté des arbres qui jalonnent le chemin, et même observer ce qui se passe à proximité et réagir. L'homme est celui qui avance dans le brouillard. Mais quand il regarde en arrière pour juger les gens du passé, il ne voit aucun brouillard sur leur chemin. De son présent, qui fut leur avenir lointain, leur chemin lui paraît entièrement clair, visible dans toute son étendue. Regardant en arrière, l'homme voit le chemin. Il voit les gens qui s'avancent, il voit leurs erreurs, mais le brouillard n'est plus là. Et pourtant, tous, Heidegger, Mayakovsky, Aragon, Ezra Pound, Gorky, Gottfried Benn, Saint-Jean Perse, Jonon, tous, ils marchaient dans le brouillard. On peut se demander qui est le plus aveugle, Mayakovsky, qui, en écrivant son poème sur Lénine, ne savait pas où mènerait le léninisme, ou nous, qui le jugeons avec le recul des décennies et ne voyons pas le brouillard qui l'enveloppait. L'aveuglement de Maïakovski fait partie de l'éternelle condition humaine. Ne pas voir le brouillard sur le chemin de Maïakovski, c'est oublier ce qu'est l'homme, oublier ce que nous sommes nous-mêmes.
Ma voisine de droite va nous lire le texte suivant. Ma voisine de droite qui est située juste à côté de l'autocollant Ministère Magouille qui est collé sur la vitre derrière laquelle se trouve Jean qui nous envoie les sons. Merci Jean. J'ai aussi une voisine à gauche que vous allez retrouver tout à l'heure. Dans pas tellement longtemps. Le texte que va donc lire Audrey, c'est un texte extrait du dernier roman de Peter Handke qui s'appelle La nuit morave, un texte sur les grenouilles qui déambulent. C'est parti.
Tout juste s'il ne s'étala pas de tout son long sur le sol. Comme d'habitude, quand on a failli tomber, l'environnement lui apparut avec d'autant plus de netteté, détail après détail, pour ainsi dire dans le foyer d'une loupe. Et c'est dans cette loupe qu'il aperçut alors, parmi les brins d'herbe, une très étrange migration de peuples. De minuscules grenouilles se déplaçaient là, guère plus grosses que des fourmis. Il y avait un instant encore, elles grouillaient, tétards noirs et luisants dans l'étang, une simple flaque plutôt. Et en une nuit, elle s'était changée en grenouille gris clair, de la taille d'un ongle. Plus de queue, mais quatre pattes, très délicates. Quatre pattes ? Plutôt une paire de jambes et une paire de bras, en quoi les animaux, par la forme de la tête aussi, évoquaient des petits hommes. Cette impression qu'on avait de voir passer ainsi dans l'herbe un petit homme après l'autre venait aussi de ce qu'elles n'étaient pas sur les talons l'une de l'autre, comme peut-être pour une procession de fourmis, mais que chacune cherchait son chemin pour soi seule, à distance, et qu'elle figurait pourtant un peuple en migration. Elles passaient, maladroites, tâtonnantes et saccadées, en zigzag désordonné, déboîtant, s'en allaient rampantes, hésitantes, en reconnaissance, loin de l'eau où elles étaient nées, droit vers la forêt, où si toutefois celle-ci existait encore, elles vivraient et grandiraient tout d'abord. Sans cesse aussi, elles s'arrêtaient, comme épuisées, et reprenaient enfin la route, tirant le corps à bout de bras, ce qui leur donnait l'apparence, quoiqu'on les vit progresser sur une surface plutôt plane, posant un petit bras devant l'autre, de grimpeurs. Et ainsi, chacune d'elles évoquait non seulement un humain, mais l'image primitive d'un humain. Et si c'était là un monde vu à la loupe, dans l'ici et le maintenant, en ce matin précis, dans cette ère précise, renvoyant en même temps à la nuit des temps, et, pour un instant, éclairant celle-ci. Ce cortège de petits hommes primitifs se laissa guider sans encombre sur le lieu de sa destination. Jour du premier papillon citron, jour des cris du faucon, jour des bourdons gelés dans le vent froid. Et maintenant, le jour de la migration du peuple des grenouilles minuscules.
Le vent n'a pas assez traversé de pays, essoufflé d'oiseaux et mondé de branches. La vague n'a pas assez roulé. Il manque un grain de sable au désert, il manque un tour de plus à la terre, un peu de poids dans les nuages, encore une ravine au visage, encore une lettre à l'alphabet. À minuit, dans les rues désertes, si le fantôme mendiant de la neige vient à passer, ne ferme pas ta porte. Miem de lui, l'espérance va renaître. Les reniennes dessinées sur le rocher se rassembleront, et viendront rafraîchir une soie de pierre sur la vie. Fleur du vivre donnera en faire des graines. Le veilleur, Jean Malrieux.
Hey,
ouais.
Tu les as achetés combien, tes godasses ?
65 francs.
J'ai failli acheter exactement les mêmes à 12 millions, mais en peau de sardine.
Je crois pas qu'il les fasse en peau de sardine. Mais t'as qu'à aller te les acheter à 12 millions en peau de sardine.
Bon, ben tout compte fait, je vais les prendre comme toi.
Le dernier chant, Jean Senac. Rire, si fort, qu'il n'y ait plus place dans ce corps pour un mot, pour un mort. Si fort que le pli des paupières cache à jamais le champignon. Que la mâchoire et les tempes coincées échappent aux mécaniques de Pluton. D'un rire plus mousseux qu'un savon. Signer et prendre le large. Bye bye, la poussière.
Jean Senac, qui est un poème algérien, que j'ai découvert sur une table ronde, enfin elle était rectangulaire, à l'Odève, lors du festival d'il y a 2 ou 3 ans, où il y avait 2 intervenants qui m'ont fait découvrir ce poète, qui s'appelle Jean Senac. Et par la même occasion, ils ont beaucoup débattu, ils ont parlé aussi de 2 autres auteurs algériens, dont Aziz Chouaki, qui est un auteur contemporain qui écrit des romans et des pièces, qui a un parler très très vif, très très sec, un parler algérois, c'est un mélange de plein de langues qui est parlé dans la rue à Alger. Je vous donnerai des références sur le site internet que vous pouvez consulter, qui parfois est très fourni et qui parfois ne l'est pas. Et aussi, lors de cette table ronde rectangulaire, nous avons eu le conseil de relire Félag, qui est un humoriste, mais qui a aussi écrit des romans. Et il y a notamment un roman qui s'appelle « L'allumeur de rêve berbère », qui est dur parce qu'il se passe dans les années 90 en Algérie avec les difficultés existentielles qu'il y avait. Et sur ce tableau, donc, on a quelque chose qui est bien révélateur d'une littérature et d'un parler qui nous vient de l'autre côté de la Méditerranée, en l'occurrence l'Algérie. Et il y a quelqu'un qui est très sensible à tout ça, qui est très sensible à l'Odev, qui s'appelle Sappho, qui reprend souvent du Léo Ferré. Et là, nous allons l'écouter pour une reprise de Monsieur William.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans fredaine, sans le moindre petit drame, mais un beau soir du mois d'août. Si bon, il faisait si doux que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard, et voilà Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme, Monsieur William, hors de lui, lui a donné coup de parapluie. Mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Schlick, schlack, Monsieur William, vous manquez de tenue, mon vieux. Qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable, Monsieur William. Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, à marcher dans le sang. Puis dans la nuit a disparu, c'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue, ça c'est sûr. Vous êtes mort dans la 13e avenue.
Voici venu le moment d'introduire notre grand débat de l'utilité et de la signification de la majuscule au commencement du vers poétique. Pourquoi les poètes choisissent-ils tout le temps la majuscule, d'autres la minuscule, ou encore certains et parfois même d'autres intervertissent? C'était la première question. Deuxième question, comment vous faire profiter, sentir, apprécier ou détester ces variations par la lecture à la radio? Troisième question. Que faire de nos amis anglais qui, pour dire « je », comme dans « je me les gèle », « ça caille ici », utilisent un « i » majuscule, prononcé « I », comme dans « I am freezing ». Un anglais ne peut donc pas commencer un vers à la première personne du singulier autrement que par une majuscule. Quelle rigidité! Que dire des Allemands qui majusculent tous leurs noms?
Dann flogen Vögel wie Spreu und auf ich folgte ihnen mit den Blicken, sah wie sie in einem.
Heureusement, ma grand-mère Germaine est piètre, donc je vous passerai ce chapitre. En fait, le débat, il est lancé et il se poursuivra dans nos prochaines émissions. N'hésitez pas à vous prononcer et nous faire part de vos réflexions par téléphone, par fax, par courrier ou sur notre site, éventuellement en tapant très très fort à la porte de la radio, en bas sur la place de l'hôtel de la mairie, à Sainte-Afrique, dans le sud d'Aveyron. Et avant de se dire au revoir, une dernière petite remarque. Vous écoutez Harmonium, un groupe canadien. Combien y a-t-il de R à l'air de rien ? Je répète, combien y a-t-il de R à l'air de rien ? Nous nous retrouverons pour la 4e et 5e émission avec une séquence enfants, des enfants d'une dizaine d'années, ce qui devrait être très vivant et dynamique. Et je vous quitte en compagnie de Elsa, Audrey et Jean, en vous rappelant que nous avons écouté Sappho, Jean Sénac, Émilie Loiseau, que je n'ai pas cité, Milan Kundera, Ray Charles, Jean Sénac, un morceau de musique de Handel, et aussi Robert Desnos en début d'émission. À très bientôt !